Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Alors que 2015 s'annonce comme une année charnière concernant la gouvernance d'Internet, nos élites déconnectées voient flou, si on prend très vite au pied de la lettre le livre de Laure Belot. Bonjour Laure Belot.
Bonjour Marc.
Tel est votre postulat de départ, vous êtes notre invité ce matin, la déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi, qui est sorti en janvier aux éditions des Arènes. Selon vous, le retard numérique en France et en Europe se creuse parce que les élites qui nous gouvernent n'ont pas su mesurer l'ampleur de la révolution numérique, ni eu la capacité de s'adapter à sa vitesse, quand bien même elles en auraient eu, qui sait par moment, la curiosité. Data quoi ? Elles sont par conséquent déconnectées et l'ordre qu'elles ont établi vacille. Alors pourquoi et comment ces élites, élevées pourtant au biberon du choc des civilisations, n'ont-elles pas vu ou voulu voir venir le choc des générations créé par Internet ? Choc dont elles seront peut-être ou déjà les principales victimes. Encore que toutes les élites, et quelles élites, nous verrons avec vous, Laure Belot, de quoi il en retourne. Et puis pourquoi beaucoup n'ont-ils pas cru tout simplement au pouvoir magique d'Internet? Dans votre livre, Laure Belot, vous êtes journaliste au Monde, vous ne décrivez cependant pas un chaos numérique qui mettrait fin à un ordre établi, mais bel et bien à un nouvel ordre qui arriverait, à un nouveau genre d'élite. Les élites 3.0, à quoi ressemblent-elles? Qui les constituent? Quelles ambitions animent ceux qui sont au cœur de ces nouveaux réseaux d'influence? Et puis, par ailleurs, comme un clin d'œil, sortait en salle hier le documentaire Citizen 4 de Laure Poitras consacré à l'affaire Snowden, séisme, vous le savez, survenu il y a 2 ans, qui a provoqué beaucoup de répliques. Est-ce que cela a changé notre vision d'Internet ?
I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make,
vous ne l'avez pas encore vu, hein, ce documentaire de Laure Poitras, Oscar du meilleur documentaire il y a quelques jours, Laure Belot. Laure Belot, on a là, dans une bande-annonce de film documentaire, quelque chose qui ressemble beaucoup quasiment à un thriller, voire un film d'anticipation, point d'anticipation. Tout ce qui est dit dans le film de Laure Poitras, mais déjà raconté par Glenn Greenwald, votre confrère de Guardian, mettant et racontant l'affaire Snowden, montre que tout de même, tout le monde n'a pas été à côté de la plaque avec Internet.
Non, Internet est né il y a 20 ans. Et on voit très bien qu'aux États-Unis, les États-Unis ont pris de l'avance, tout simplement. C'est vrai que le web est né de part et d'autre de l'Atlantique. L'Europe a eu réellement sa part pour créer le web. Mais on voit bien après que les États-Unis ont pris de l'avance et s'en sont saisis pour prendre des parts de marché, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, pour connaître le monde, pour surveiller le monde.
D'où l'arrogance que l'on reproche à Barack Obama il y a quelques jours encore de dire « oui, nous sommes les meilleurs, les champions, que l'Europe arrête son protectionnisme avec Internet, c'est nous qui tenons la corde. » Et mieux vaut s'intéresser, dit-il, à Silicon Valley qu'à Vladimir Poutine.
Oui, c'est compliqué cette attitude-là, parce que malgré tout, au bout du compte, les usagers, ce sont les gens, vous, moi, les citoyens. Donc on voit très bien que les puissants peuvent dire des choses, mais ensuite, ce sont les gens qui acceptent ou non d'utiliser des services qui leur sont proposés. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant quand on parle de la neutralité du net. Ce qui s'est passé actuellement, on va dire que le gouvernement américain a pris une position, la FCC a pris une position pour la neutralité du net, mais on voit bien que c'est aussi parce qu'il y a 4 millions d'Américains qui ont envoyé des mails en disant que ça serait bien que le net soit un bien public. Pour tout le monde, au même prix pour tout le monde.
Mais comment est-ce qu'Internet peut-il être un bien public quand il est détenu à ce point par d'aussi puissantes compagnies privées ?
Ben, c'est tout le paradoxe.
Nous, le service public, on sait ce que c'est, Radio France, mais là, dans ce cas-là...
Mais bien sûr, d'autant plus qu'on voit bien qu'à peu près plus de 80% des données, parce qu'on va parler pendant cet entretien, j'imagine, des données personnelles, on voit que nous, on raconte toutes nos vies sur Internet. Et puis on a des portables, on va avoir des montres connectées, et toutes ces données sont aspirées dans des lieux très précis. Et à 80%, plus de 80%, c'est aux États-Unis. Puis il y a la Chine aussi qui est en train d'aspirer ces données. Donc le pouvoir actuellement, c'est la donnée. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc c'est vrai que derrière ça, la donnée, elle peut servir à optimiser le chiffre d'affaires de grands groupes, c'est ce qui se passe actuellement. Elle peut servir à connaître encore plus et à surveiller les populations. Et elle peut servir au bien commun. Au bien commun, en comprenant mieux ce qui se passe, en ayant de l'avance pour connaître les maladies, en pouvant diminuer les embouteillages dans la rue. Donc il y a aussi une utilisation du big data et de ces données personnelles pour le bien commun et pour notre civilisation. Donc c'est ces trois aspects qui sont là. Le commerce d'un côté, la surveillance de l'autre et le bien commun.
Vous avez remarqué que chaque fois, c'est en dernier que vous mettez le bien commun.
Parce que pour l'instant, on est plutôt dans l'optimisation du chiffre d'affaires des grands groupes qui s'en sont saisis, et puis une compréhension par certains États, notamment les États-Unis, d'une utilisation massive de la donnée pour surveiller encore plus les gens.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez pianoté sur Internet, que vous avez eu un téléphone portable connecté ?
Alors là, moi, je ne suis pas geek du tout, mais je peux être assez fier pour dire qu'avant la naissance du web, j'étais élève ingénieur et je suis parti faire un stage au Ternion en Israël. À l'époque, le web n'était pas né et il y avait IBM qui permettait de donner des liens pour... Je travaillais pour le MIT du Ternion, donc à Haïfa, et je pouvais donc converser par des mails qui ne s'appelaient pas des mails avec d'autres personnes. C'était les prémices d'Internet, donc c'était en 89.
Et en 89, vous vous disiez qu'il y avait quelque chose là que vous faisiez, vous, de façon assez confidentielle, mais qui allait devenir la norme, une règle commune, ou pas du tout ?
Du tout, du tout. Et après, j'ai plus du tout été en avance pour tout le reste. J'ai eu mon téléphone comme les autres. Mais en effet, je n'avais absolument pas imaginé que ça puisse dépasser le cadre de laboratoire et de relations entre laboratoires qui puissent échanger des informations, des trouvailles au niveau des expériences.
Et comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ce divorce, cette déconnexion des élites, on va dire, et des sociétés par rapport à cette question du net ? Il y a une chose assez marrante dans votre livre. Vous commencez par prendre des exemples extrêmement concrets pour dire, mais au fond, on a là sous les yeux qu'il y a bien quelque chose dont les gens, entre guillemets, se sont emparés plus vite que leurs dirigeants. Il y a par exemple cette référence au Bon Coin.
Hello. Salut. Mathieu.
Ouais.
Salut, tu as amené une petite guitare. En fait, ouais, la guitare, c'est pour mon pote Iggy.
Bonjour.
Ouais. Ça va, installe-toi là.
La publicité pour Le Bon Coin, voilà, c'est pour mon pote Iggy, je change les guitares, je leur revends la mienne, j'en achète une autre, tout cela se fait de façon très horizontale, je discute avec les stars et je suis moi-même une star puisqu'Iggy me parle comme à son égal. En quoi cette question du Bon Coin, Lorbelot, est-elle exemplaire de votre démarche et de ce que vous voulez raconter de notre société aujourd'hui vis-à-vis du numérique ?
En fait, Le Bon Coin, c'était central, c'était un peu le point de départ. C'est-à-dire que je m'intéresse à tout ce qui est émergent dans la société. Donc je regarde Le Bon Coin et je vois que petit à petit...
Alors, leboncoin.fr, il faut
dire. Leboncoin.fr. Ouais. Et je me rends compte que les Français s'emparent du Bon Coin pour faire tout et n'importe quoi. Donc ça va être, en effet, vendre des objets, mais aussi trouver une voiture, troquer une voiture, trouver du travail. Ça va être également trouver un appartement.
Acheter des chaussures.
Acheter des
chaussures.
Donc
on crée l'onglet chaussures dans l'onglet vêtements, vous dites.
On crée l'onglet vêtements. Et alors, ils créent l'onglet vêtements parce qu'ils se rendent compte que ça monte. Et d'un coup, il y a 500 000 paires de chaussures qui arrivent en ligne. Donc en fait, ils suivent les Français et les Français s'en emparent. Donc je vais les voir et je leur dis aux deux dirigeants, écoutez, ça serait intéressant que des chercheurs se penchent sur la question parce qu'il se passe quelque chose qui va au-delà de la simple plateforme d'échange. Ils me disent volontiers...
Mais ça n'est pas que de la consommation, pourrait-on vous dire.
Non, ça n'est pas que de la consommation, mais justement, ce qui est compliqué, c'est de trouver du sens à ce qui est en train de se passer. Donc je cherche des chercheurs, justement, pour essayer de trouver du sens. Et là, autre surprise, les gens ne connaissent pas. Alors il y a quand même, à l'époque, déjà 17 millions de personnes par mois qui y vont.
Le à l'époque étant il y a deux ans.
À peu près, ouais, c'était en janvier 2013.
C'est quand même pas très vieux.
Ouais. Oui. Mais bon, une année Internet, c'est cette année
oui,
en fait.
Ça, ouais. Donc, c'est comme la vie des chats, oui.
C'est la vie des chats, exactement. Et ensuite, non seulement ils ne connaissent pas, et ensuite je ne trouve pas grand monde qui s'y intéresse vraiment. Je trouve 5 extrêmement courageux, dont Jacques Le Goff qui n'avait jamais été sur Internet, donc on a fait des séances particulières chez lui, c'était assez savoureux. Laurence Fontaine, Patrice Manigli, bon.
Dominique Rousseau.
Dominique Rousseau, je l'ai entraîné pour une autre histoire.
D'accord.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, avec leur point de vue, m'ont expliqué ce qu'ils voyaient à travers Le Bon Coin. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure des enquêtes, à chaque fois que je m'intéresse à des phénomènes émergents, que c'est la même chose. Je découvre des choses, je me tourne vers des personnes en disant « Regardez ce qui est en train de se passer ». Et je trouve assez peu de gens qui connaissent et assez peu de gens qui s'y intéressent. Et c'est le cumul de ces expériences, qui sont d'ailleurs... Une expérience, c'est quasiment un chapitre. Le cumul de ces chapitres et de ces expériences qui ont fait sens. Donc c'est très factuel ce que je dis. Je ne suis pas parti en disant « Mon Dieu, les élites sont déconnectés. » C'est juste que petit à petit, factuellement, je me suis rendu compte que les élites n'étaient pas au courant de cet usage massif horizontaux qui arrivait avec Internet.
Alors, ce qui caractériserait et ce qui définirait en un mot cet usage massif d'Internet dont vous parlez, qu'il soit effectivement pour acheter des chaussures, qu'il soit pour tout d'un coup créer un réseau bancaire que vous décrivez parallèle, qui permet d'échapper à des taux usuriers de banques habituelles, et vous dites voilà, et ça marche plutôt très bien. Bon, qui permet qui de faire des voyages, qui de louer des appartements, d'échanger des appartements. C'est quoi le maître mot ? C'est quoi ? C'est la remise en cause, dites-vous, de la délégation ?
Oui, disons qu'il y a une désintermédiation évidente. C'est qu'avec Internet, on peut essayer de faire un peu tout et n'importe quoi dans tous les sens. Ça peut ne pas marcher ou pas marcher, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, et ce que Dominique Rousseau, le constitutionnaliste, me dit, c'est que le bas de la société pousse, les gens du haut ne comprennent pas vraiment, et il y a des élites intermédiaires, les artistes, les intellectuels, les médias, qui racontent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Donc on a une sorte de déconnexion parce que la société du bas, entre guillemets, est en train de s'organiser entre elles et se dit aussi qu'elle n'a pas spécialement du besoin du haut pour agir, pour parler, pour converser, pour prendre position, pour consommer. Donc c'est ça qu'on est en train de voir également. Et c'est ça, je crois, qui a pu déranger lorsque la première enquête « Les élites débordées par le numérique » a été publiée il y a un an.
Sauf qu'on pourrait vous dire, Laure Belot, que tout de même, il y a une société du haut qui n'est pas totalement ignare sur ces questions-là et qui surveille la société du bas s'organisant avec Internet. Après tout, l'affaire Snowden le montre. Dès que la société du bas dérange un peu ou se sert d'Internet, non pas seulement pour acheter des chaussures, mais qui sait, pour dénoncer telle entreprise d'espionnage ou de surveillance des individus, là, la société du haut, très connectée aussi, intervient. C'est ce que montre le film de Laure Poitras et Snowden en général.
Bien entendu, vous avez tout à fait raison, c'est que la société du haut a bien sûr compris Internet, mais l'a vu avec une logique de pouvoir. Donc d'un côté, il y a une communication exacerbée du haut en bas de la société, les puissants tweets, c'est une cour numérique, on fait des saillies à 140 caractères, et puis d'un autre côté, on surveille. Donc en fait, ces deux axes-là ont été parfaitement compris, et encore mieux par exemple par les États-Unis. Mais le troisième point, qui est la vraie révolution culturelle, la nouvelle civilisation numérique, n'est pas perçue. Or, il est vrai, il y a donc Daniel Kaplan de la Fink qui le dit à la fin, la société a été imaginée sur un diptyque qui est l'État d'un côté et le secteur privé. Il y a un triptyque, l'État, la société civile aussi, qui se rajoute au privé. C'est-à-dire qu'en fait, on doit maintenant imaginer la société avec Internet, avec le porte-voix qui est devenu Internet.
Je voudrais vous faire écouter, là aussi, cette fois, une autre publicité, pas pour le Bon Coin, une publicité très ancienne, elle date de 2012, c'est pour Amazon. Écoutez bien le texte de cette publicité, on pourrait presque penser qu'il a été écrit au second degré par un George Orwell visionnaire, alors qu'il est tout à fait au premier degré. C'est assez étrange, écoutez bien.
Le sourire sur les colis, c'est nous. Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien. Notre plus grand rêve, créer des choses qui changent votre vie et deviennent ensuite une habitude. Transformer le révolutionnaire en ordinaire. Nos plus belles réussites sont celles auxquelles vous ne pensez plus, mais dont vous ne pouvez plus vous passer. Relier votre souris à votre porte d'entrée a été notre plus grande conquête. Concevoir Kindle, notre plus belle victoire. Et vous donner la parole, une idée lumineuse. Aussi, quand nous concevons quelque chose de nouveau pour vous, attendez-vous à ce que tout change. Encore un peu plus. Regardez autour de vous. Ce qui hier encore semblait impossible fait maintenant partie de votre quotidien. Et le quotidien ne demande qu'à être chamboulé. Amazon.
Waouh ! C'est impressionnant comme publicité.
Transformer le révolutionnaire en quelque chose d'ordinaire. C'est oui. Vraiment la société de Che Guevara sur les t-shirts, quoi.
Ce qui est intéressant également, c'est de voir que Amazon, par exemple, a des contrats avec les éditeurs et en fait récupère beaucoup de données sur la lecture, mais que ces données ne sont pas redonnées, par exemple, aux éditeurs. Donc, en fait, c'est une lecture de la société, c'est une nouvelle...
Mais c'est très Big Brother avec le sourire, hein.
Mais oui, ça l'est. Donc c'est pour ça également, moi, que j'ai écrit ce livre. C'est pour donner des clés de lecture de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, il y a de nouvelles élites, de nouveaux groupes. Là, en fait, Amazon fait partie des GAFA. Donc les GAFA, ce sont Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ont en effet compris et se sont saisis de ces technologies. Mais on peut dire que déjà, les GAFA sont menacés par ce qu'on appelle les ABTX. Les ABTX, ce sont les GAFA chinois. Donc c'est Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi. Et ces gens-là, que ce soit dans le commerce, dans la téléphonie, dans le moteur de recherche, dans une application comme WeChat qui rassemble quand même 800 millions de Chinois, ce sont des gens qui sont en train de prendre des parts de marché phénoménales. Juste pour un exemple, Alibaba, il y a un an, a dit aux Chinois, si vous voulez mettre de l'argent chez nous, vous pouvez le faire. En l'espace d'un an, ils sont devenus le quatrième fonds de dépôt mondial face à trois autres groupes qui avaient mis de 10 à 20 ans à devenir le quatrième fonds. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, on se disait, est-ce qu'on va donner notre carte de crédit sur Internet? On a peur. Et 5-6 ans après, vous avez un site qui normalement fait du commerce et qui récupère 100 milliards de dollars de dépôts en Chine. Donc on voit bien également que quand ça dérange l'ordre établi, par rapport à des banques traditionnelles, ces nouveaux acteurs prennent des positions phénoménales.
Alors, ils prennent des positions phénoménales. Est-ce que du coup, cela veut dire qu'il y a des moyens ou pas, et qu'il faut, et qu'on peut ou pas, réguler ces grands groupes, et justement, et toutes ces transactions, et cette façon de faire? Parce que du coup, se pose la question. Certains disent, voilà comment on est surveillé, il faut trouver un moyen de réguler ça, de trouver des lois. Enfin, la question du droit redevient centrale.
La question du droit est centrale, et puis en même temps, Internet est un outil, donc c'est le reflet de notre société. Donc il y a des choses très intéressantes, des choses formidables, la collaboration entre les citoyens, etc. Puis il y a des choses très sombres qui se passent aussi. Donc bien entendu, on a besoin de régulation. Donc la question du droit est centrale. Il faut être extrêmement créatif actuellement pour trouver un moyen de réagir. C'est vrai que l'accélération du monde est bien supérieure au rythme de construction d'une société.
Et sur ce coup-là, donc, les Américains et maintenant les Chinois sont très en avance sur nous.
Il est vrai que l'Europe a pris un temps de retard, et c'est vrai que l'affaire Snowden, ça a été une alarme pour beaucoup de démocraties, parce que ça venait d'une démocratie alliée, ce qui s'est passé. Donc on s'est dit, il y a des choses que nous n'avons pas compris.
Alors vous n'êtes pas la seule à dénoncer, cela dit, la défiance française vis-à-vis de l'Internet. Vient de sortir au PUF, Presse universitaire de France, d'Alexandre Moati, au pays de numérique. C'est Alexandre Moati, qui est chercheur en chef des mines et chercheur associé à Paris 7, Denis Diderot. S'est confié à Ambre Filouz Rousseau pour dénoncer et donner un exemple de retard français, par exemple, en termes d'utilisation du numérique. Écoutez-le, Alexandre Moati, au micro d'Ambre Filouz Rousseau des matins.
Nos institutions mettent pas beaucoup sur Internet des images, si vous voulez. Ça, c'est un petit peu dommage. Par exemple, vous prenez de la page Wikipédia consacrée à De Gaulle, vous trouvez une image de la Bundesarchive allemande, une image de la Maison Blanche. C'est pas banal sur la page De Gaulle, si vous voulez, une image allemande, une image américaine. Donc voilà, je pense que nos institutions culturelles, scientifiques, pourraient rayonner de manière un peu plus importante sur Internet. En ce sens, oui, peut-être que on prend du retard par rapport à d'autres pays, mais c'est quelque chose qui peut être rattrapable. Voilà, moi, ça m'amuse toujours quand je vois que par exemple, les photos officielles qui sont prises à la Maison Blanche on peut les verser sur Internet. Et les photos officielles de président de la République française, on ne peut pas les verser sur Internet. Vous trouvez des photos sur Internet libres de droit qui sont des photos prises de ministres lors de l'université d'été du MEDEF, par exemple.
Alexandre Moati, qui publie donc au pays de Numérix, aux presses universitaires de France. Laure Belot.
Ce qui est intéressant avec la France, c'est de regarder en fait comment ça se passe. On a énormément d'innovations actuellement, une créativité phénoménale au niveau des jeunes. On a 300 000 start-up qui arrivent chaque année en France. Et puis quand on regarde sur les 100 premières entreprises de chaque pays, aux États-Unis, il y en a 63 qui ont moins de 30 ans. En France, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément d'idées, on a un terreau extraordinaire et on a l'impression qu'on a une captation des richesses par les anciens pour ne pas donner en fait, de l'espace et du soleil pour que ces graines puissent pousser.
Nous verrons avec vous de quoi justement il retourne et quel est l'avenir, peut-être, qui sait, de ces start-up, entre autres, et de cet Internet français. Dans la deuxième partie des matins, avec vous, Laure Belot, je rappelle, la déconnexion des élites. Comment Internet dérange l'ordre établi? Et c'est publié, bien sûr, aux Arènes.